franceinter.fr.
Bonjour à tous. Au pays de Jules Ferry, l'école est-elle toujours un lieu d'intégration sociale et culturelle ? La question se pose alors que l'on a vu tout récemment des parents d'élèves dénoncer la ghettoïsation dont leurs enfants seraient victimes dans ces établissements scolaires de quartiers dits « difficiles » et que les classes moyennes et supérieures ont déserté. Cette vérité a été longtemps masquée par le discours républicain. Les élèves qui fréquentent ces écoles, ces collèges ou ces lycées n'ont pourtant qu'une vision très tronquée de la société française parce qu'ils ne fréquentent ou ne côtoient que des jeunes issus des mêmes milieux. Au printemps dernier, les maires du quartier du Petit Bar à Montpellier sont allés jusqu'à occuper des écoles pour crier leur indignation. Ont-elles été entendues ? Dès cette rentrée, sous l'impulsion du gouvernement, une douzaine de départements vont tenter de redorer l'image de leurs collèges les plus frappés par ce phénomène, pour que mixité et égalité des chances ne soient plus seulement des slogans vides de sens. Mon école, ce ghetto, c'est un reportage de Claire Chaudière.
Interception, le magazine de la rédaction.
Là, vous avez l'école primaire de l'école Armstrong. Donc, c'est là où il y aura cet après-midi les jeux gonflables. Là, vous avez notre combat qui a été immortalisé par des militants du Deep Social Club. C'est des militants parisiens qui vont dans tous les quartiers de France et de Navarre et qui portent les messages portés par les habitants de ces quartiers. Et donc, du coup, ils voulaient une image. Et ils ont pris une photo pour la mettre. Salut, ça va ?
Donc on est sur un square avec un grand mur avec inscrit on lâche rien, égalité pour tous, apartheid scolaire.
Mais attendez, regardez, tout est marqué, le déroulé de la lutte. Là-bas tout en haut, vous avez le département modifie la carte scolaire. On se mobilise contre l'apartheid scolaire. Les élèves du Petit Bar sont tous assignés à un collège ghetto. Mixité, est-ce du blablabla ? Et après, nous, mamans du quartier, entrons en lutte. Égalité pour tous. Nous occupons les écoles, aucun résultat.
France Inter.
Quand les parents d'élèves cadenassent les portes de l'école.
À Montpellier, jeudi, ils ont en effet mis des cadenas sur les portes des deux groupes scolaires, primaire et maternelle, du Petit Bar. C'est un quartier en difficulté, comme on dit par euphémisme. Depuis la mi-mars, ils manifestent contre la nouvelle carte scolaire qui ne va pas améliorer la mixité sociale. Au contraire, pour nous, parents d'élèves,
Et nous, on va lui donner un enfant, on va lui mettre...
Parce que le retard, malheureusement, que vous vivez aujourd'hui à cause de nous, c'est le retard de tous nos enfants. Ils sont scolarisés dans des écoles ghetto. Et ça, depuis des décennies, il a fallu aujourd'hui qu'on dérange tout le monde pour être écouté.
Ils nous parlent d'égalité, et comme des cons, les accueillent. Démocratie, démocratie, si c'était le cas, on aurait su que pèse notre vie de vote. Pas à la lueur du marché, si qu'on déchire à notre triomphe, on sait bien que c'est
cherchez des escargots.
Donc on a traversé le quartier du Petit Bar avec vous, Sana, et on a retrouvé d'autres mamans. 17 jours de blocage d'école l'an dernier ici dans ce quartier. Expliquez-nous comment tout ça a commencé, comment ça a démarré et pourquoi.
C'est la goutte d'eau, j'ai envie de dire, qui a fait déborder le vase, c'est le vote de la modification de la carte scolaire qui renvoyait tous les enfants des deux groupes scolaires à un seul et même collège, un collège qui est collège ghetto. Ils se retrouvaient donc du coup de la maternelle jusqu'au collège que dans des établissements ghettoisés.
Dès le début, on a interpellé le maire, le président du département, le préfet, la ministre de l'Éducation, le président de la République. Donc chacun des courriers a été envoyé avec la copie à tout le monde en janvier.
Qu'est-ce que vous disiez dans ces courriers ?
Dans ces courriers, justement, on dénonçait le fait qu'il y ait eu cette modification de carte scolaire, puisque quand il y a eu la réhabilitation sur le quartier, il y a un nouveau collège qui s'appelle le collège Rabelais, hein, qui nous a été vendu comme le collège où il y aurait de la mixité. Donc la moitié, 50% des enfants du Petit Bar, allaient dans ce collège depuis 2005, à l'ouverture de ce collège.
Et ça fonctionnait ?
Et ça fonctionnait. C'est un collège où il y a de la mixité, où les enfants, enfin, découvrent ce que c'est qu'un collège de la République. Parce que pour nous, on estime que ce n'est pas des écoles de la République à partir du moment où ces écoles, elles sont composées avec une seule population. Comment voulez-vous apprendre l'autre quand vous êtes dans l'entre-soi ? Et après, le pire, c'est qu'on nous dit, c'est de votre faute, vous faites du communautarisme, et le communautarisme, il est institué. Il n'est pas par nous. La ségrégation scolaire, on l'a subie. Et là, on apprend qu'il y a modification de la carte scolaire parce qu'ils n'avaient pas anticipé l'explosion démographique d'un nouveau quartier là-bas derrière. Et bien sûr, qui c'est qu'on envoie ? Mais on dit, bah, tiens, ceux du Petit Bar, ils vont retourner à l'ASCAS. Donc c'est ça, les courriers. Ce qui a été grave, c'est qu'on a eu zéro réponse. Et en fait, on s'est retrouvés tous les soirs à pas dormir, à se dire, mais c'est pas possible. 600 enfants étaient tous les jours donc, dans le quartier, donc on assurait avec des activités pour les enfants. En fait, chaque jour, on faisait une action symbolique de façon à faire comprendre à nos enfants que c'était pas de gaieté de cœur qu'on avait fermé les écoles, mais qu'en même temps, on voulait qu'ils puissent comprendre que ce qu'on réclamait, c'était simplement que les valeurs de notre République, elles soient appliquées et qu'on puisse les vivre. Donc du coup, on faisait des dessins autour de la Marianne, on chantait Madame la République, il y avait un petit atelier choral. En fait, tous les jours, on faisait une action symbolique pour pouvoir dire, mais est-ce qu'on est des citoyens de seconde zone ? Pourquoi vous nous méprisez tant ? Donc si tout le monde respectait la carte scolaire, en fait, à l'ASCAS, aujourd'hui, il y aurait 50% de classes favorisées et 40% de classes défavorisées. Donc il n'y aurait pas de souci, sauf que il accueille que les enfants des quartiers populaires, le quartier des Cévennes et le quartier du Petit Bar.
Comment se fait-il qu'il n'accueille pas les autres populations ?
Parce que les autres populations, l'assouplissement de la carte scolaire de 2007, que M. Sarkozy a mis en place, elle a favorisé qui ? Pas nous, parce que nous, on n'a pas droit aux dérogations. Par contre, les classes favorisées, elles ont toutes les pratiques d'évitement, elles ont la possibilité d'avoir des dérogations. Nous, on nous les refuse systématiquement. Elles ont la possibilité d'aller dans le privé parce qu'ils ont les moyens. Et donc, du coup, il reste que les enfants des quartiers. Ça a accentué la ségrégation scolaire dans les établissements. Nos enfants, ils passent un tiers de leur vie dans l'école. Si dans cette école, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer l'autre, ils vont le rencontrer où ? Comment voulez-vous connaître l'autre ? Et ça, non, la mixité, la lecture médiatique, c'est elles veulent des petits blancs, non ?
On veut tout simplement réaliser le rêve de Jules Ferry. Donc, mettre sur le banc de l'école tous les citoyens voilà, de toute classe, voilà, les mettre sur un seul et même banc de l'école. Il n'y a plus de
distinction.
Voilà, sans distinction, il n'y a plus de différence.
La numéro 1, la scène, c'est bon ? Attends, stop, je vais y attendre. On va partir à même temps, s'il vous plaît. On va partir à même temps. Donc attention, début des rencontres.
Moi je suis Hamza Arab, j'étais l'un des porte-parole de l'association Justice pour le Petit Bar. Je suis le président du Montpellier Méditerranée Futsal, anciennement Montpellier Petit Bar Futsal, qui est en Ligue 1 de futsal, championnat de France.
Tous ces jeunes qu'on voit jouer au foot là, ils ont quel parcours scolaire ?
C'est chaotique ici. Ceux qui jouent là, la plupart, c'est des jeunes en échec scolaire très très tôt. C'est le même circuit. École du Petit Bar, collège Lascaz, prison de Villeneuve-le-Maguelone. Échec scolaire, prison de Villeneuve-le-Maguelone pour une grande partie des jeunes, voire la majorité. J'étais au collège Lascaz. J'ai pas fait l'école du Petit Bar par contre. J'étais à l'école des Pins, ce qui est un quartier où on n'était pas beaucoup de robeux, pour dire les choses, pour pas jouer, utiliser les mots des politiciens, genre issus de la diversité. J'étais un bon élève à l'école primaire. Je suis arrivé au collège Lascaz, je retrouve tous mes potes du quartier. Et c'est parti petit à petit, ça commence à partir en cacahuète. On se retrouve à faire des conneries, après on se retrouve, on fait la case prison. Après la case prison, il y a deux chemins. Soit c'est un chemin où on prend conscience des choses et donc on affronte la vie autrement. Soit on continue et ça devient ce qu'on peut voir quand vous allez au quartier du Petit Bar à partir de 18h. Tenir les murs et la routine habituelle. Ça veut dire qu'ici, par exemple, vous avez toutes les villas là autour. Normalement, elles dépendent des écoles du Petit Bar. Mais pour la plupart, elles s'arrangent pour avoir des dérogations pour les amener dans d'autres écoles. Il est là le problème aussi. Quand on s'appelle François et qu'on a une villa à côté, on peut aller mettre notre enfant ailleurs, dans une autre école.
Bonjour, je m'appelle Ikram Sabri.
Moi, je suis MC Agema, j'ai 14 ans.
Toute cette mobilisation autour de votre collège Las Cases, c'est une mobilisation pour quoi ?
Pour qu'il y ait un peu plus de mixité dans les classes, parce qu'on était 99% de maghrébins et c'était, il n'y avait pas du tout de mixité du tout.
Ça veut dire quoi la mixité sociale ?
Pour moi, la mixité sociale, c'est quand... Il y a toutes les cultures, tout est mélangé, c'est ça qui donne ça la France, quoi.
Et aujourd'hui, le collège, il est représentatif de la France ?
Oui, pour moi, oui. Il y a des Espagnols, il y a de tout. Français, Italien, Chinois.
Et tout.
Voilà, quoi, c'est mélangé.
Cette appellation, qui a été un peu celle des parents d'élèves du Petit Bar, de collège ghetto, est-ce que vous vous êtes reconnus là-dedans ?
Moi, je ne qualifierais pas ce collège de collège ghetto. Même si c'est entre deux quartiers, y a des personnes, elles sont super sympas, comme des personnes qui sont mauvaises. Dans tous les collèges, quoi. C'est pas Las Cases, comme on a dit. C'est très dur à entendre, oui, ton collège, c'est n'importe quoi, ton collège, si, ça. Alors que si on est à l'intérieur, ils n'ont pas vu, en fait, qu'on a des ruches, qu'on a un collège durable, qu'on a eu le prix Nobel, qu'on a... Le recteur qui est venu, qu'il y a plein de choses franchement qui se passent ici. En fait, il faut être à l'intérieur pour le voir. Si on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas juger sans savoir, quoi.
Ben moi, à la base, je ne devais pas venir à ce collège parce que ma mère, elle disait que, enfin, c'était pas ma famille, disait pas que c'était pas un bon collège. Ben après, ils m'ont mis ici. À la fin, ben en fait, ils ont eu tort parce que je leur raconte un peu comment ça se passe et ben je trouve que c'est un bon collège. Enfin, petit à petit, ça améliore. Avant, c'était pas pareil. Enfin, ça s'améliore, en fait.
Avant, au début de l'année, parce que...
Non, avant, par exemple, mes tantes, elles étaient ici, mais c'était pas du tout pareil. Enfin, en fait, ils s'améliorent de plus en plus.
Vous avez pas l'impression d'être empêchée d'apprendre parce que...
Non, pas du tout.
Il y a une atmosphère difficile ici.
Non, pas du tout. Si on veut apprendre, t'apprends, c'est tout.
Si tu veux pas, t'apprends pas. Après, c'est avec la volonté, c'est pas... Enfin, c'est pas les entourages qui vont nous arrêter à faire ce qu'on veut.
Avec les nouvelles filières, avec tout ce qui s'est passé, ben, notre collège s'est fait entendre, enfin.
Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
Ministre. Ministre, peut-être, de l'éducation ou avocat.
Pourquoi ministre de l'éducation ?
Parce que c'est ce qui va faire le monde de demain si on n'éduque pas les enfants d'aujourd'hui.
Hamid Balouk, enseignant de maths au collège Las Cases.
Je suis Moustapha Faoui, professeur de mathématiques ici à Las Cases et c'est ma troisième année.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la mobilisation des parents d'élèves du quartier du Petit Bar ? Comment on vit tout ça de l'intérieur d'un établissement ?
On comprend complètement la mobilisation des parents. Cependant, ce qui était difficile pour nous, c'était indirectement de l'extérieur, la vision que les gens avaient. La situation, c'est qu'à Las Cases, ça ne se passait pas bien. Et c'est un collège où les élèves ne réussissent pas. Dire qu'à Las Cases, les élèves ne réussissent pas, ce n'est pas vrai. Ces élèves-là, qu'on a, si on les mettait dans un autre collège, d'excellence, si vous voulez, le meilleur collège de France, ne réussiront pas plus qu'ici. Je dirais même le contraire. Parce qu'ici, il y a une énergie qui est développée, des moyens qui sont mis, qui ne sont pas mis ailleurs. Donc c'est pas le problème n'est pas dans Las Cases, si vous voulez. Il est dans... Le public, quoi.
Créer un établissement comme le nôtre, qui concentre autant de catégories de la même type ethnique et sociale, c'est quand même un frein pour l'émancipation des élèves. On a quand même un collège à dominante 95% de maghrébins, donc je pense que tout le monde le sait. Et donc on cumule non seulement un ghetto ethnique, mais aussi un ghetto social.
Là, vous le ressentez, vous, dans les salles de classe ?
Ah, on le ressent, oui.
Comment ?
On le ressent parce que l'écho de nos élèves ne sont pas les mêmes, parce que... Quand on a des élèves qui sont de catégorie socio-professionnelle un peu plus aisés, si vous voulez, les parents transmettent certains codes à leurs enfants par rapport au travail, par rapport à la réussite, par rapport à l'avenir professionnel. Ces élèves-là n'ont pas cette ambition. Même leur ambition est très limitée. Ils ne savent même pas ce qui se passe au-delà du lycée pour la majorité. Quand les élèves viennent tous de catégories sociales défavorisées, l'ambition va venir d'où ? On a beau leur parler, nous, de l'ambition, s'ils ne la voient pas chez eux, ils ne la voient pas entre leurs camarades, ça ne leur dit rien. Mais le fait de se confronter avec des couches sociales différentes, ça crée cette émulation intellectuelle et ça crée de l'ambition. Donc il faut les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre.
Ils étaient à l'école ensemble en primaire, ils arrivent au collège, ils sont encore ensemble, et c'est une fois qu'ils quittent le collège, quand ils vont au lycée, que là, justement, ils commencent, qu'ils découvrent, entre guillemets, la France dans sa diversité. Et nos élèves, justement, le premier choc qu'ils ont, c'est la différence culturelle. C'est les codes qui ne sont pas les mêmes, les postures qui ne sont pas les mêmes, les rapports avec les adultes qui ne sont pas les mêmes, les rapports aux autres, entre eux, qui ne sont pas les mêmes. C'est ce qui est le plus difficile pour eux.
Une année scolaire s'est écoulée depuis la mobilisation des mamans du Petit Bar à Montpellier. Année au cours de laquelle le gouvernement a lancé une expérimentation sur la mixité sociale au collège. Inédite, mais d'une ampleur limitée. Une vingtaine de territoires se sont portés candidats. Les académies vont tenter, parfois dès cette rentrée, de mieux répartir les élèves en tenant compte à la fois de leur choix et de leur profil sociologique. L'idée, c'est de tester de nouvelles méthodes. Armande Le Pellec-Muller, elle, a choisi de jouer sur les apprentissages pour attirer de nouvelles familles. Le recteur de Montpellier assure être à l'écoute des maires du Petit Bar, mais répète que tout cela était déjà dans les tuyaux. Elle porte un regard assez critique sur l'action du collectif.
C'est vrai que cette mobilisation a eu un effet, je dirais, négatif, qui a très, très fortement dégradé son image. Et c'est vrai que nous avons dû aussi nous mobiliser pour permettre à cet établissement au moins d'être regardé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un établissement dans lequel les équipes sont particulièrement mobilisées. Donc le choix que nous avons fait, c'est plutôt de reconstruire l'image de cet établissement dans un partenariat que nous avons mené avec tout un ensemble, je dirais, à la fois d'établissements d'enseignement supérieur, de lycées, d'associations, au niveau culturel, au niveau sportif, avec beaucoup de clubs sportifs, le basket des féminines de Latte, vous les voyez, elles sont championnes de France, avec le rugby. Cette offre attractive, nous l'avons renforcée sur différents parcours, mais qui débutent dès l'école. Donc voilà, dès le premier degré. Par exemple, nous allons installer une section internationale anglo-américaine qui sera partagée avec Camille Claudel, qui est un établissement pour lequel la mixité est largement au rendez-vous. Donc nous faisons le choix de nous dire, avec une offre attractive, par exemple là, la section internationale anglo-américaine, nous allons attirer y compris des élèves qui sont hors secteur, ce qui permettra aux élèves du secteur de pouvoir rencontrer une diversité de camarades. Alors nous le faisons pour la section internationale. Nous le faisons pour une section théâtre que nous débutons dès le premier degré également. Le Collège Lascaz a un théâtre dans ses murs, puis tout un ensemble de parcours d'excellence avec notre l'UFR de sciences de l'Université de Montpellier, avec les langues de Montpellier 3, avec Supagro, avec l'école d'architecture. Donc la réponse, vous la voyez, c'est que l'offre attractive du collège débute dès l'école, et puis nous donnons une poursuite d'études possible au lycée Joffre, au lycée Jules Guesde, au lycée Jean Monnet, et puis ensuite dans les universités ou les écoles.
Vous comprenez que des parents puissent aujourd'hui avoir peur de mettre leurs enfants à Lascaz ?
Je vais vous répondre de manière très déterminée sur ce sujet. Lascaz va être un des établissements les plus attractifs de l'académie. Et nous l'avons déjà fait dans un autre collège et dans un autre lycée. Je pense notamment au lycée Jules Guesde, qui aujourd'hui est le lycée international de l'Académie de Montpellier. Il se trouve qu'aujourd'hui, cet établissement est mixte, alors que de la même manière que Lascaz, il avait pu faire l'objet par le passé d'un très grand évitement. Donc ce que je veux dire aux parents en termes de message, c'est que les équipes sont extraordinaires à Lascaz. Extraordinaire. Nous n'avons pas de problème à Lascaz de décrochage. Aucun. Donc je crois qu'en effet, ce qu'on a à faire aujourd'hui, bien plus que tout le reste, c'est de lutter contre ces fausses représentations.
Donc je suis la maman d'un garçon qui va rentrer en 6e l'année prochaine, qui a donc fait sa scolarité en section internationale à l'école primaire de mon quartier, qui s'appelle Sibelius Potier. et qui donc a passé le concours pour rentrer en section internationale.
Alors expliquez-moi, vous vous retrouvez dans une situation un peu étrange peut-être, ou en tant que parent d'élève impliqué sur ces questions, j'imagine que vous avez suivi la mobilisation des parents du petit bar, etc. Et là, vous vous retrouvez dans un choix personnel par rapport à l'orientation de votre enfant, dû aux réponses politiques à cette mobilisation.
Oui, exactement. Il y a un an, moi, j'étais tout à fait favorable à leur mobilisation. Je suis toujours, en fait. Hein, c'est-à-dire que je pense toujours que la mixité sociale est nécessaire partout dans Montpellier et à commencer dans ces quartiers-là. Maintenant, il se trouve que quand c'est personnel, quand c'est notre enfant qu'on envoie représenter la mixité sociale dans un établissement totalement non mixte, absolument non mixte, ben, on se pose d'autres questions. C'est-à-dire qu'on se demande, premièrement, comment ça va être pour lui d'être le seul ou parmi un petit groupe de 10 gamins ou de 20 gamins sur 600-400 à ne pas être comme les autres. C'est-à-dire que c'est lui qui se retrouve l'exception culturelle, ce qui est quand même un peu étrange. Je pense que dans le collège, ça se passe assez bien. Mais il va devoir prendre le bus, il va devoir faire une circulation que ses copains font pas, ou alors il va devoir y aller en vélo, il y en a pour un bon quart d'heure. Entre chez moi et puis le collège, il peut se passer beaucoup de choses qui sont pas du ressort du collège, qui sont pas de mon ressort, mais par contre qui sont du ressort du quartier. Et puis surtout, c'est ce côté, on va lui demander de servir d'alibi à une nouvelle politique, de prouver que, oui, bien sûr, il y a des enfants de tous niveaux sociaux à l'ASCAS. Regardez, il y a celui-là. Et moi, j'ai pas trop envie que mon fils soit constamment pris dans ce jeu-là pour prouver que l'institution prend soin des enfants de l'ASCAS, ce qui, à mon sens, n'est pas complètement prouvé. Et du coup, ça m'embête vraiment, ça. Il y a 25 enfants qui vont être placés dans ce collège, donc ils vont pas s'intégrer réellement dans l'ensemble, dans le groupe collège.
Ils vont être une classe à part,
séparée. Et les seuls moments où ils vont se retrouver en commun avec les autres, c'est des moments où ils sont pas, ils sont moins cadrés aussi, dans les couloirs. Et puis ça va être à la sortie. C'est le moment où il va se retrouver vraiment dans le groupe. Et moi, personnellement, je suis pas convaincue du tout que ce soit le meilleur moment pour des enfants qui sont déjà dans une classe ghetto à l'intérieur d'un collège ghetto. Je suis pas persuadée que ces moments-là, c'est le meilleur moment pour rentrer en contact avec le reste de l'établissement. Après, chacun doit trouver la limite où il arrête d'être en accord avec ses convictions et où il protège son enfant. Voilà.
Quand vous imaginez votre enfant en profil minoritaire dans ce collège-là, vous avez peur de quoi exactement ?
Moi, j'ai peur des coups, j'ai peur de... Parce que c'est un profil minoritaire qui se voit, là, en l'occurrence. Hein, j'ai peur des coups, j'ai peur des bousculades, j'ai peur des brimades, oui, bien sûr. Voilà, j'ai peur que pour lui, ce soit plus difficile que de faire une sixième normale.
Est-ce que vous vous dites aussi qu'il peut y avoir des choses positives pour votre enfant d'être dans ce collège-là ? Est-ce que ça peut aussi lui apporter des choses qu'il ne trouverait pas ailleurs ?
Honnêtement, je pense que ce que ça va lui apporter, c'est de voir la misère sociale, c'est de voir des gamins qui ne mangent pas tous les jours, c'est de voir tout ça. C'est super à 11 ans d'apprendre ça. Moi, je ne crois pas que ce soit raisonnable. Enfin, voilà. Si je pouvais l'en protéger, je le protégerais de ça. Aussi longtemps que je pourrais. Parce que je pense que c'est trop jeune pour découvrir ça.
1 euro.
Compétent pour eux, moi c'est ma question. Donc en fait, c'est bien de comme je vous dis, c'est très bien de faire venir la mixité, donc c'est-à-dire faire convaincre les personnes de quartier favorisés de ne pas aller dans le privé, de venir dans le public et puis de revenir.
Ça exige un service
très bien.
Fort.
Maintenant, ma question c'est que fait-on pour justement les enfants de quartier populaire qui sont dans ces collèges-là maintenant aujourd'hui et qui sont dans. Où rien ne se propose à eux. Là, vraiment, il n'y a aucun choix pour eux.
Si vous me permettez, dans un collège comme Arthur Rimbaud, il est classé REP.
Parmi les visiteurs passés cet après-midi-là à la fête du quartier, un conseiller départemental en charge de l'éducation, le socialiste Michael Delafosse.
Des dispositifs d'adaptation, ne niez pas, il y a des équipes d'enseignants qui sont extrêmement motivées. Alors ça donne peut-être pas autant de résultats qu'on aimerait. C'est d'ailleurs pour les enseignants, des fois, une souffrance. Mais ça en donne aussi. Parce qu'on sait également que dans les quartiers populaires, là où les familles, ben, malheureusement, n'ont pas de travail, sont plus dans la difficulté, c'est plus dur. Donc l'école, elle a des choses à faire et il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Collège des Garrigues, par exemple, c'est là où en priorité, on a mis les tablettes numériques. Alors on va dire, ah, c'est égal. Non, les tablettes numériques, c'est préparer les enfants au monde du numérique. C'est eux à qui on a donné en premier, plutôt que dans les autres établissements scolaires, pour montrer que la priorité, elle était là. Parce que la concurrence, elle est entre le service public et le privé. Et ceux qui ont les moyens d'aller dans le privé, ils s'en vont.
Alors,
et ça, c'est bien
la
dommage.
La question, en fait, c'est que fait-on pour, par exemple, les 600 enfants qui sont là au petit bar.
Vous voudriez que votre enfant, il aille dans quel collège?
Pour les parents mobilisés du petit bar, comme pour certaines familles plus favorisées, les changements pour cette rentrée constituent un premier pas positif, mais la réponse politique est loin d'être à la hauteur des enjeux. Ni suffisamment forte, ni suffisamment large géographiquement, et surtout pas assez construite avec les parents d'élèves mobilisés. Le ministère répond qu'il veut éviter les grandes annonces, la précipitation, les coups de baguette magique et la culpabilisation des familles, donner envie, en douceur, plutôt que de contraindre.
Tiens, tiens,
la question de la ségrégation scolaire touche tout type de territoire, y compris des secteurs plus ruraux où la composition sociale de deux collèges, assez proches, n'a parfois rien à voir. Mais l'absence de mixité sociale est plus difficile à combattre lorsque des établissements scolaires se trouvent au cœur de vastes ensembles très pauvres. Nous voici à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, cité des 3000, emblématique de ces grandes constructions HLM des années 60.
Bonjour.
Madame Smaïla.
Bonjour.
C'est ma fille.
Voilà.
Enchantée. Désolée du retard, j'étais avec Susie là. Au jeu avec la directrice, on parlait un peu de la gamine. Bon, on va avancer un petit peu.
Oui, oui. Ouais.
Et par contre, je vais juste voir ma mère là parce qu'elle m'a interpellée là, 2 minutes.
Elle est sur le banc au milieu de la place.
J'ai trouvé une maman aussi qui est prête aussi à répondre à quelques questions. Ça vous dérange pas qu'on emmène avec nous à la maison?
Avec plaisir.
C'est une ancienne du collège Victor Hugo aussi.
Bonjour madame.
Ah, c'est une journaliste, ouais, voilà.
Et voilà,
voilà.
Tu voulais me dire quelque chose?
On est issus d'une famille de 8 enfants quand même, hein. Parce que moi je suis de parents étrangers, mais on est tous de nationalité française parce qu'on est tous nés en France. Voilà, on est tous français, on est considérés comme des français, quoi. On est vachement intégrés, ouais, voilà, on est français. Ouais. Même si d'autres ne le pensent pas qu'on soit français. Voilà, donc bah, on va avancer alors. Ouais.
Allez,
au revoir,
à plus tard.
Bonjour les madames.
Merci,
à vous aussi.
Et voilà, on a grandi dans cette rue-là, la rue principale qui est reliée au Galion. Voilà. Ouais. Le Galion où il y a le séjour de marché aujourd'hui. J'y suis passée.
Voilà, le marché, ouais, c'est le mardi, vendredi et dimanche. Ça a toujours été comme ça. Allez-y, madame, entrez. C'est vous, je vais écarter les tables, moi, parce qu'avec mes filles. Rien que dans l'immeuble à ma mère, on va vous dire, allez, il y avait combien de Français dans le bâtiment à ma mère, d'Européens? Il y avait la famille Dumortier, la famille Dupont, la famille Paulet.
Et ceux qui habitaient au troisième, là.
Ouais, c'était et pas mal d'Européens. 90, je crois, qu'ils sont partis. Ils commençaient à partir un par un.
Ils commençaient à partir. Ouais. En fait, ils demandaient à changer de secteur. Il y en a qui ont déménagé juste d'Aulnay-Nord à Aulnay-Sud.
Ouais, Aulnay-Sud, ouais. Ils ont acheté, ils ont investi. Il y en a qui sont partis à Villepinte, la famille Belin. Natacha, elle est dans le sud.
Ouais.
Mais on se retrouve hein, sur Facebook et tout. Hein. Et quand on leur dit, bah, nous, on est restés dans la cité. Mais qu'est-ce que t'es resté fou dans la cité? Bah, ouais, mais je suis restée parce que j'avais envie de rester. Il y a tout à côté.
Est-ce que vous pensez qu'il y avait, à l'époque, une mixité sociale, oui, culturelle dans les établissements scolaires?
Oui, aussi, ouais. Ah, ouais, ouais. Oui. C'était, Et puis, c'est ça qui était sympa. Parce qu'en moi, il n'y avait pas de... On n'avait pas l'impression d'avoir une étiquette, quoi. Mais aujourd'hui, le petit, quand il arrive en primaire, il a déjà son étiquette parce que c'est un enfant perturbateur, turbulent. Il est fiché.
Vos enfants, quel est votre regard sur leur scolarité?
Moi, mon fils, il passe en troisième. La réussite, ici, je pense pas. Je le vois mal aller au lycée, aller jusqu'au bac, c'est pas possible. Il est tombé avec une classe qui est super difficile, tellement perturbatrice que impossible d'avancer, impossible de travailler. Alors ma petite, ouais, elle est en CE2 pour l'instant. Donc son père et moi, on est en train d'envisager de ne pas la mettre au collège Victor Hugo. Parce qu'on a peur, parce que c'est une fille. On a plus de crainte pour elle. Voilà.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète pour elle exactement dans ce collège ?
Le gang. Qu'elle intègre une bande et que moi, je ne le sache pas. Parce que les filles, elles sont sans scrupules. Quand elles veulent prendre une proie, elles l'ont, la proie.
Alors, quels sont les choix d'écoles privées autour de la cité des 3000 ?
On a l'Espérance, à Aulnay Sud, mais bon, ça, c'est du piston. Hein, ça...
Pourquoi c'est du piston ?
Bah parce que y a pas de place. Hein. Même le bon élève ne pourra pas intégrer ce collège. Après, on a quoi ? On a le protectorat Saint-Joseph, primaire et lycée.
Oui.
Après, il reste le collège, l'école musulmane, je crois, c'est à Chelles, à Villepinte, ouais. Elle vient d'ouvrir, celle-là.
Oui, mais c'est très, 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 très cher. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce que l'école vous a apporté à toutes les deux, est-ce qu'elle est susceptible, cette école, que ce soit la primaire, la maternelle, le collège, le lycée, d'apporter les mêmes choses à vos enfants ?
Oh, je crois pas.
Ah non.
Non.
Non, 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 pas du tout. Ah non, 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 non.
Non.
Je pense qu'à l'époque, on avait plus la chance d'avoir des instits et des professeurs qui nous écoutaient, qui ressentaient quand on avait un problème, qui cherchaient la communication.
Ils ne nous tiraient jamais vers le bas, ils nous disaient tout le temps « Moi, je suis là pour t'apprendre à lire et à écrire, mais tu verras, tu regretteras. » Aujourd'hui, ils ne le disent pas aux enfants. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange.
Bah, en maternelle, ils baissent les bras déjà.
Ouais, ils baissent les bras.
Donc, comment ils vont faire quand ils seront au collège ? Moi, je suis mère célibataire avec ma fille et je mets déjà de côté pour que ma fille n'aille pas au collège.
Mais oui, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, moi, j'ai été dans une école publique, j'ai pu réussir et pourquoi ma fille, elle n'arrivera pas ? Quand je sors 2 minutes dehors et que je vois un groupe de filles passer, je me dis, ben voilà, pourquoi ? Je ne peux pas m'amuser avec la vie de ma fille. En fait, je m'amuserai avec la vie de ma fille. Moi, j'ai eu la chance de savoir parler français. Mes parents m'ont fait naître en France, et ben moi je vais défendre la cause des autres. Voilà. Et c'est ce qui me pousse à être représentant parent d'élèves. Parce que, entre parenthèses, je voudrais pas être vulgaire, mais on a besoin de grande gueule. Voilà.
Pourquoi on a besoin de grande gueule ?
Ils nous prennent pour des cons. Alors il suffit que, voilà, ils me voient voilés, ils croient que j'ai rien compris.
Alors, c'est ici l'association des femmes relais. On a un local de 300 mètres carrés avec un accueil pour le public tous les jours, du lundi au vendredi. En fait, c'est des personnes qui ont du mal à remplir leurs documents administratifs.
D'accord.
Et donc, on les aide à remplir parce qu'elles ont du mal avec la langue française et aussi avec l'écrit. Et là aussi, c'est une deuxième salle pour les cours parce qu'on a deux cours en parallèle par jour, le matin et l'après-midi. Vous voulez un café ? Oui.
Allez, on va prendre un café. On est vraiment au cœur de la cité des 3000.
Ah oui, la Rose des Vents, oui. Au cœur de la... On est... oui, c'est le point central du quartier de la Rose des Vents. Appelé les 3000, mais bon, c'est plus joli, la Rose des Vents. Je suis Aïssa Sago, donc maman de 5 enfants, directrice de l'association des femmes relais. Et depuis 2014, adjointe au maire chargée de l'action sociale sur la ville d'Aulnay-sous-Bois.
À la création de votre association, est-ce que la question de la mixité sociale dans les établissements scolaires était présente ?
Non, en fait, c'est vrai que moi, je me posais la question, parce que quand je suis arrivée, comment ça se fait que si on est dans un endroit fermé comme ça, où toutes les personnes... qui viennent d'ailleurs, se retrouvent tous ensemble. Et c'est la première question que je me suis posée. Et ma première réaction, c'était de partir ou de scolariser mes enfants ailleurs. J'en ai mis un dans le privé. Déjà, il n'a pas compris pourquoi lui part du quartier et pas les autres, pourquoi tous les matins il doit prendre le bus pour aller à l'école, pourquoi il a changé sa garde-robe, pourquoi il ne peut plus mettre de basket, pourquoi il doit mettre... voilà. Donc, et puis, quand il est arrivé dans ce collège-là, donc, il s'est braqué, en fait. Et je pense aussi qu'on lui a fait ressentir qu'il venait d'ailleurs. Et du coup, il le vivait très mal. Et moi, j'étais en stress parce qu'il fallait que tout soit parfait, il fallait qu'il n'y ait pas de remarques là-bas, il fallait qu'il se tienne mieux que les autres. Et il se voyait différent du coup. Et la différence, je pense que moi aussi, je lui faisais ressentir parce qu'il avait l'impression qu'il était déjà stigmatisé. Donc il fallait qu'il soit très discret, il ne fallait pas qu'il se fasse remarquer. Et du coup, je lui mettais tellement cette pression que En fait, j'avais l'effet contraire de ce que je recherchais. Le carnet, il était rempli de mots tous les jours, des pages et des pages. Et je ne pouvais pas contredire, en fait, ce que l'école a écrit. Donc, il avait l'impression que je ne le soutenais pas. Du coup, en cinquième, il n'est pas retourné parce que je me suis dit, s'il reste là, c'est là qu'il y aura un échec scolaire. C'est ce que je dis aujourd'hui souvent aux familles. Je leur donne l'exemple de mon fils. Ce n'est pas parce que je l'ai mis dans le privé qu'il est devenu le premier de la classe ou qu'il est devenu le meilleur garçon du monde. Aujourd'hui, quand j'en reparle avec lui, il me dit de toute façon, je serais restée là, je serais devenue un délinquant.
La question de la mixité sociale à l'école, le gouvernement qui s'en saisit, qui va expérimenter des choses pour remettre de la mixité sociale, pour essayer de lutter contre ces collèges qui ont une mauvaise image, vous pensez que c'est un vrai problème? Vous en pensez quoi de tout ça?
La mixité sociale, après il faut savoir ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est que tous les étrangers vivent avec les Français de souche? Si c'est ça la mixité sociale, je pense que... Pour l'instant, on n'y est pas. Si c'est de dire que des enfants qui habitent dans les quartiers puissent aller dans d'autres quartiers pour être mélangés avec d'autres enfants, pour l'instant, on n'y est pas non plus. Donc, ça va être un peu compliqué, sauf si la carte scolaire elle est totalement libre et que ça veut dire que demain, dans ces collèges-là, il n'y aura personne.
Au Collège République, dans le centre-ville de Bobigny, toujours en Seine-Saint-Denis, parents et professeurs sont convaincus que la question de la ségrégation scolaire ne se réglera pas sans augmenter les moyens dans les quartiers prioritaires. Ils ont saisi le défenseur des droits le 16 juin dernier. Ensemble, ils dénoncent le cercle vicieux dans lequel est enfermé leur collège. Baisse des dotations, climat difficile, mauvaise réputation, fuite des familles les plus favorisées, enseignants qui craquent. L'année 2015-2016 a été marquée par 2 incendies volontaires.
Allez hop, on traverse comme ça on sera du bon côté. Attention.
Ah, le collège, il est là-bas, là. Il est juste là-bas.
Voilà, au bout. Le grillage
noir, là, qu'on voit, c'est le collège.
D'accord. Et nous, on vous amène de là-bas.
C'est quoi, là-bas?
Genre la Bourse du Travail. C'est calme, là-bas.
Vous connaissez un peu la Bourse du Travail?
Non.
On aime bien juste aller là-bas, parce que c'est plutôt calme. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de voies rapides autour. Bon, on y va. C'est parti.
Moi, je m'appelle Tarshana. J'ai étudié au Collège République les 4 ans.
Moi, c'est Maguette, ancienne élève également au Collège République. Comme elle, j'ai fait ma 6e, 5e, 4e, 3e. Avant d'entrer, j'ai beaucoup entendu parler et tout le temps, ce n'était pas des bonnes choses. C'était plutôt qu'il n'y a que des bagarres, des disputes, que des choses comme ça. C'est tout ce que j'ai entendu, moi, du Collège République.
Des fois, par exemple, c'est vrai que comme l'incendie qu'il y a eu, ça peut faire peur quand même. Tu peux te dire, ah, quand même, c'est... C'est pas tout le temps qu'on entend incendie criminel en plus au collège.
Criminel et qu'on sait qu'en fait c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment voulu faire ça exprès pour faire, pour déclencher quelque chose.
À cause de choses comme ça, on perd un temps mais de fou quoi. Si on regarde les profs absents, toutes les semaines ou les heures on n'a pas eu cours, au bout ça fait un truc énorme quoi. Moi, c'est cette impression que j'ai. On est un collège plutôt délaissé, en fait, des autres. J'ai l'impression que certains pensent, République, c'est fini, on peut les laisser de côté. De toute façon, ils ne vont pas réussir. C'est pas parce qu'on est à République, qu'on est à Bobigny, qu'on n'a pas les capacités, qu'on est bête. Non, pas du tout. Et j'ai l'impression que ceux qui pensent que ceux qui sont à Paris, c'est bon parce qu'ils sont à Paris, ils sont meilleurs que nous, alors que non. Ils donnent trop une mauvaise image. Donc ça fait plutôt fuir, voilà. Sans savoir ce qui se passe à l'intérieur, donc ça fait fuir le monde.
On est soi-disant des personnes... Est-ce que je peux dire ça? Non, mais ceux qui veulent pas le travailler, qui s'en foutent un peu de l'avenir, les mal éduqués, ceux qui traitent mal les profs et tout ça, pas du tout. Je pense que si on traitait autant mal les profs, moi et Maguette, on se retrouverait pas là avec 16 de moyenne à chaque fois.
On n'est pas des monstres, quoi, c'est ce que j'ai envie de dire.
Alors, je vais d'abord vous demander de vous présenter tous les deux.
Alice, prof de français et de latin, donc Collège République depuis c'est la fin de ma troisième année, donc j'entamerai ma quatrième année l'année prochaine.
Et Basile, professeur de mathématiques, je suis là, c'est ma première année au Collège République.
Qu'est-ce que vous diriez? Comment vous diagnostiquez ce qui s'est passé cette année et ce glissement vers un climat compliqué?
Bah déjà, on a eu une suppression de moyens, ça c'est clair. On a moins de surveillants. On a trop d'élèves par classe. Je dirais qu'on essaie de trouver des solutions avec ce qu'on a, mais les solutions, elles sont claires, mais on ne veut pas nous les accorder. C'est qu'on fonctionne à 23 élèves par classe. Ça pourrait paraître peu en rapport des autres établissements qui tournent à 28-30, mais 23 élèves par classe. Par exemple, moi, j'ai été sur la classe EBEP. C'est une classe à élèves à besoins particuliers, les dyslexiques, etc. Donc j'avais à gérer une dyslexique, une dysphasique, j'avais à gérer un élève à multi-troubles 10, troubles du comportement, etc. Et quand on se retrouve tout seul face à ces élèves, c'est pas les élèves le problème, c'est juste qu'on ne peut pas leur accorder le temps qu'on devrait leur accorder. En plus, en français, on s'est fait enlever des heures. On était à 7 heures en 6e l'année dernière, c'était une classe de 6e. C'était bien parce qu'on avait le temps de faire de la lecture, de reprendre des choses, etc. Là, ils nous ont enlevé une heure. Et avec la nouvelle réforme, ils vont encore nous enlever des heures. Ça donne que le programme est difficile à boucler. Ça donne que les élèves, du coup, ils sont plus agités en classe. On a eu 20 conseils de discipline, par exemple. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que mes élèves, en fait, se retrouvent à être pris dans un système qui va reproduire les inégalités sociales. Alors qu'on a des talents fous dans ces élèves, on a des élèves qui sont brillants, on a des élèves intelligents, cultivés, on a des élèves qui sont curieux, et on ne peut pas leur donner tout ce qu'on pourrait leur donner. En fait, enseigner, c'est fabuleux. On leur transmet tellement de choses, et ils sont tellement curieux, mais au niveau de la hiérarchie, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je le dis, on est méprisés, en fait. Il y a une inégalité tellement forte. L'éducation à la française, elle est absolument pas égalitaire. Et ce qu'on pourrait vouloir transmettre aux élèves, on peut pas.
Vous mettriez votre enfant dans ce collège?
Bah, je peux te dire un discours un peu pessimiste là-dessus, mais depuis que je suis enseignant, ça doit faire 2 ans, je sais pas si j'ai encore envie d'avoir des enfants. Enfin, concrètement, à moins qu'il y ait un changement dans le collège, je me vois pas envoyer mon gamin dans un collège, et peu importe le collège. Il y a un manque de profs actuellement dans beaucoup de matières, et il n'y a pas grand-chose qui donne envie aux gens de devenir prof. Il n'y a pas forcément de reconnaissance du métier. Même, je trouve, moi, ici, sur Bobigny, par exemple, c'est un des collèges où la reconnaissance de l'enseignement est énorme au niveau des parents. Beaucoup de parents nous remercient pour ce qu'on fait, sont contents, mais c'est pas suffisant, surtout que derrière on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas quand même et que c'est encore plus frustrant quand on a des parents qui nous disent merci pour ce que vous faites et qu'on a l'impression de pas du tout arriver à faire ce qu'on veut.
Ça va? C'est bien passé le brevet? Ça s'est bien passé le brevet? Ah, ça c'est gentil.
Ça fait 23 pages, donc c'est difficile de résumer 23 pages. Et tout ça, c'est les annexes, on a mis pour prouver ce qu'on dit, plein de tableaux, de voilà.
Donc Laurence Blin, vous êtes mère d'un élève qui est en 5e au Collège République à Bobigny et vous faites partie des parents du collectif de parents qui avait saisi le défenseur des droits.
Oui.
Pourriez-vous me lire le début de la lettre?
Alors, monsieur le défenseur des droits, nous vous adressons aujourd'hui ce courrier car les conditions d'enseignement pour les élèves du Collège République de Bobigny nous semblent porteuses de discriminations territoriales importantes. Nous vous saisissons car nous voulons que les élèves du collège puissent jouir pleinement de leur droit à l'éducation tel qu'il est énoncé par les articles L111.1 et L122.1 du Code de l'éducation. On est dans un système, on est en région parisienne, dans un système de ségrégation spatiale en fait. Et ça marche ensemble, la ségrégation scolaire et la ségrégation spatiale. Le revenu moyen des habitants, il est très faible en fait. Par ailleurs, les parents qui travaillent, qui ont des revenus, on va dire, à peu près corrects, il y en a un certain nombre qui ne veulent pas, en fait, envoyer leurs enfants au collège public et qui font le choix de les envoyer dans des collèges privés, en tout cas pas dans leur collège public de secteur. Et il y a une fuite, on va dire, des parents. Voilà, mon fils a un CM2, la plupart de ses copains, un tiers de la classe à peu près, partis dans un collège privé de Pantin, quoi. Voilà.
Vous comprenez ça? C'est une question qui s'est posée pour vous et pas pour votre fils?
J'essaie de comprendre. J'essaie de dépasser parfois ce qu'on m'a pu me dire. Tu mets ton fils là, tu le sacrifies à tes idées. Bon.
C'est ce qu'on vous dit ?
Ouais, c'est exactement ce qu'on me dit. Et plusieurs personnes qui le disent exactement de cette façon-là, quoi. Donc c'est dur quand même de s'entendre dire ça. Mais en fait, il n'y a pas d'idéologie derrière. Hein. Ce qui inquiète vraiment une partie des parents, tout bêtement, c'est le niveau d'absentéisme des profs. C'est vraiment la préoccupation de comment je fais pour que mon gamin réussisse. Il y a un manque de confiance dans l'éducation nationale très fort au niveau du collège, en fait.
Et vous la ressentez, enfin, votre fils ou vous, à travers votre fils, vous la ressentez, l'impact de cette fuite des classes moyennes ?
Eh bien oui, parce que là, par exemple, on a été voir une amie qui s'interrogeait est-ce qu'elle retirait sa fille du collège privé pour la mettre finalement au collège république. Donc c'est toujours délicat de donner un avis là-dessus. Donc j'ai demandé à mon fils de dire voilà, c'est quoi les côtés positifs et c'est quoi les côtés négatifs du collège république. Il n'y en a pas eu de positif, quoi. Si, il adore certains profs, il y a trois profs qu'il adore et avec qui ça se passe bien et avec qui il prend du plaisir, on va dire. Mais sinon, voilà, si on fait une balance, il y avait quand même beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. Moi, je trouve que c'est aussi qu'on essaie un peu de les mater. Mais sans doute parce qu'il y a des difficultés. C'est pas une volonté comme ça, sadique. Mais quelque part, il y a quand même du préjugé là-dessus. C'est parfois difficile à vivre quand on habite en banlieue. Il y a une richesse culturelle dans cette ville. Je prends un exemple. Mon fils était plus petit. Il a un ami d'origine sri-lankaise. Et puis je dis, mais les parents d'Abilash, ils parlent quelle langue déjà ? Alors, comme une imbécile, je lui dis hindou, anglais. Et il me regarde d'un air éberlué parce que pour lui, c'était évident. Et il me répond, mais enfin, tamoul, maman. Voilà. Pour lui, c'est un truc. C'est normal, ça fait partie de sa culture.
C'était Mon école, ce ghetto, un reportage de Claire Chaudière, prise de son Georges Thau et Jean-Louis Deloncle, mixage Alain Joubert. Interception est une émission réalisée par Anne Lioro avec le concours de Stéphane Combe et Zora Bensmaili complète le site de notre émission, un site sur lequel vous pouvez réagir mais aussi obtenir plus d'informations sur le sujet de la semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche, à la semaine prochaine.